Frédéric Bousquet, donc je suis musicien, compositeur, je suis facteur d'instruments et chercheur en musicologie. J'habite surtout au Temple, qui est sur la commune de Quézac. La question du patrimoine sonore, elle est devenue centrale. Donc moi, je me sens bien ici parce que ce que j'apprécie ici, c'est cette question-là. C'est cette sensibilité au monde sonore qui est particulièrement remarquable sur notre territoire. Ben, Chant de l'âme, oui, c'est un titre qui est assez étonnant parce qu'au fond, on se dit musique sacrée, chant de l'âme, musique sacrée au XXIe siècle. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est posé la question aujourd'hui, qui écoute de la musique sacrée, où, et quelle serait la musique sacrée du XXIe siècle? En quoi peut-on croire aujourd'hui? Et donc, nous avons lancé un appel international auprès de compositeurs, compositrices, pour écrire de la musique sacrée. Et nous avons reçu une douzaine de partitions, venues de lieux très divers, de Scandinavie, d'Italie, d'Allemagne, de Colombie. Et toutes ces pièces-là, finalement, se sont mises à raconter quelque chose. Et c'est ce que l'on a appelé les chants de l'âme. Qu'est-ce que c'est que le sacré dans le monde? Aujourd'hui, quelles sont nos croyances? Ici, par exemple, on est très proche de la nature, on est proche de la lumière, on perçoit des synchronicités, des vibrations. Ensuite, on peut se dire qu'il y a aussi le protestantisme, donc il y a des religions. Il y a des formes de croyances plus primitives aussi. On voit qu'il y a de l'art ancestral sur des parois, sur des installations, sur des lieux telluriques, sur des menhirs. Alors, comment associer tout ça dans un répertoire? À vrai dire, ce sont les compositeurs et compositrices qui nous ont apporté ça. Par exemple, le concert débute avec une pièce de Thierry Machuel. Thierry Machuel, c'est vraiment la musique des sphères. Donc, c'est l'aspect plutôt cosmogonique de la croyance. Ensuite, on parle du côté du Chelsea. Chelsea, c'est une pièce vocale qui est inspirée de voyages à travers l'Orient. Donc, elle fait appel plutôt à une sorte de prosodie primale, disons. Kim André Ardensen, c'est un des compositeurs les plus réputés aujourd'hui en Scandinavie. Lui, il nous a écrit une musique, on appelle ça néoclassique, c'est-à-dire vraiment avec des accords, avec des mélodies. Et la thématique, c'est l'amour. Voilà, elle parle vraiment d'amour. Une autre pièce, ça va être celle de Pascal Zavaro, par exemple. Pascal Zavaro, il a pris appui sur le livre des morts tibétains. Donc il nous raconte, ce coup-ci, l'éveil du Bouddha. Une de Alain Labarsouk qui s'appelle Transfiguration, qui parle de la transfiguration du Christ, et qui met en perspective justement ces idées créationnistes avec toujours ces couples, vous voyez, où on se demande si au départ c'est un inceste entre une mère et son fils, ou bien une vierge qui est là, qui... On comprend rien à toutes ces histoires de religion, mais ça se recoupe quand même, vous voyez. Donc je pense que c'est important de terminer ce concert sur dans la religion la place du profane. Donc vous voyez, c'est très très vaste les croyances aujourd'hui, et je pense qu'il ne faut pas aborder ça en tant que musicien ou par un seul prisme. L'idée, c'est justement de vous convier au maximum, auditeurs, à venir vivre ça avec nous, parce que vous allez non pas l'intellectualiser, mais juste le ressentir, et particulièrement parce qu'il y a deux créations, celle de Dorothée Hoffmann et celle de Caroline Marceau. Et ça signifie quoi, des créations? Ça signifie que ça vient d'être écrit. Ça veut dire que l'émotion, elle est brute, elle est là. Elle est celle de notre temps. Et là, on a la chance de pouvoir la partager, la créer ensemble, c'est-à-dire s'en nourrir immédiatement. Je pense que dans ce milieu de la musique contemporaine, qui n'est pas de la musique actuelle, au sens où c'est pas de la pop, c'est pas du tout quelque chose de commercial. On est vraiment dans l'innovation, l'expérimentation du monde sonore, l'exploration. Il y a finalement 130 ensembles en France. Mais dans les ensembles vocaux, il y a l'ensemble Méliade, par exemple, il y a l'ensemble Moravocis, qui est basé en Occitanie, et qui sont parmi les plus remarquables. Et donc ce sont des personnalités que l'on avait pu croiser, avec qui on avait envie de travailler. Ça part toujours d'une envie. Et particulièrement cette année, ce programme s'est enrichi de deux pièces. Et ces deux pièces sont des compositions de compositrice. Donc nous avons une pièce de Dorothée Hoffmann, qui est une compositrice de Germanie, qui a écrit quelque chose justement au sujet de l'euphone. Repartons aux origines de l'euphone, qu'elle appelait plus gracieux. Et puis nous avons une pièce de Caroline Marceau, qui est compositrice et qui est membre de l'ensemble Moravocis, et qui, elle, s'est attachée plus à travailler sur la matière, l'aspect, oui, la vibration de la matière, au sens du compagnon, celui qui taille la pierre, celui qui... Et comment ensuite, cette pierre, une fois taillée, ben, où est-ce qu'elle va aller, quelle va être son... Où est-ce qu'on va pouvoir la placer, qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Donc Moravocis viendra évidemment à la Genette Verte, avec la présence de Caroline Marceau, qui pourra vous raconter encore plus de la genèse de cette pièce qu'elle appelait Tsur. La musique sacrée s'est construite parce qu'au départ, on avait une monodie. C'est du grégorien. Ensuite, ça a été plusieurs lignes mélodiques qui se répondaient. Ensuite, au bout d'un moment, dans ces lignes-là, il y a du profane qui est rentré. Donc l'Église a dit, maintenant la musique dans l'Église, c'est vertical. Donc on est passé de mélodie, de mélopée, à une construction de la musique avec des accords. Et puis on en arrive, vous voyez, à des musiques sacrées qui sont celles de Jean-Sébastien Bach, qui sont celles, voilà, avec un art très 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 précis de ça. Donc aujourd'hui, la musique contemporaine, elle est complètement libre. On peut utiliser des modes principaux de jeu, on peut tout à fait utiliser des modes secondaires, frotter, gratter, créer de la matière sonore, travailler à l'intérieur de ça. Et je pense qu'en plus de la voix et de l'euphone, qui est un instrument qui se rapproche beaucoup de la voix en termes de sonorité, cette collection historique de bols chantants tibétains, pour les coups, c'est pas de la musicothérapie, là. C'est juste des instruments qui ont été fabriqués il y a 400 ans pour avoir ce pouvoir émollient, pour avoir ce pouvoir sonore. Donc on l'utilise sur une pièce, mais c'est quelque chose d'absolument unique. Pour ce programme Chant de l'âme, nous avons un instrumentarium, on appelle ça un groupe d'instruments, qui est formé de deux euphones, une collection de bols chantants tibétains du XVIIe siècle, et puis un quatuor vocal. Donc elles se déplacent avec leur instrument, qui est la voix. Alors l'euphone, globalement, sa description... On la retrouve dans les dictionnaires de la musique à partir de 1805 à peu près. C'est la mise en vibration d'une barre métallique grâce à un archet de verre. Donc globalement, comment ça marche? C'est-à-dire qu'on imagine des verres à pied, on a la friction du doigt sur le verre. Les instruments à friction, qu'est-ce qu'on connaît comme instruments à friction? On a la cuica, par exemple, au Brésil. On avait le brao, par exemple, au Moyen-Âge, ici. Bon, ensuite, les barres métalliques, ce sont quoi, en fait? Des cordes épaisses. Donc ça apparaît avec le violon à clous. C'est le haut Moyen-Âge. On frotte à ce moment-là des petites barres comme ça en métal avec un archet. Mais il faut voir que c'est déjà l'évolution des lamellophones. C'est-à-dire que la famille de départ, c'est que quand on arrive à fondre les minerais et obtenir des premières plaques de métal, on va les rouler pour créer des tores. On a beaucoup de bijoux, on a beaucoup d'appôts, hein. Donc ensuite, si vous voulez, quand on arrive à commencer à faire des fils comme ça, ces fils-là, ils vont être martelés, ça va donner naissance à toutes les familles instrumentales qui sont les kalimbas. Les pianos à pouce. Ça va se développer justement après l'invention de l'euphone, par l'artisan qui va développer la facture de l'euphone, qui s'appelle la famille Bushman. Ils vont développer l'aéroline, plein d'instruments, le mélodion, le terpodion, et ça va aboutir aux andéolines, c'est-à-dire en fait des premiers instruments à souffler, et ça permet de mettre en vibration des petites lames métalliques. Et ça arrivera à l'accordéon, finalement. On arrive à l'accordéon qui n'a qu'un siècle. Vous voyez, par exemple, l'harmonica, c'est 1823. Donc ça, il y a une corrélation entre ces manches libres, en fait, on appelle ça en acoustique. Et puis, c'est à partir du moment où, si vous voulez, cette petite lame, au lieu d'être large et fine, eh ben, elle devient à peu près identique dans sa section, qu'elle soit carrée ou ronde, bon, ça devient une barre que l'on peut percuter ou frotter. Donc on a le violon à clous au Moyen-Âge dans un billot de bois. Le billot de bois se transforme avec une caisse de résonance comme sur une guitare. Et puis petit à petit on se dit oui mais on pourrait aussi les aligner plutôt que les mettre en rond. Donc on va aligner ces barres et on va pouvoir les accorder. Parce qu'un instrument de musique est construit toujours de la même façon. Il y a un élément qui excite, c'est-à-dire une baguette, un médiator, un plectre, donc un archet. Voilà. Ensuite il y a un élément qu'on appelle le résonateur, c'est celui qui vibre. La corde, la peau, la lame, etc. Et puis on a le système de couplage. Alors qu'est-ce que c'est que le système de couplage? Il nous faut une table d'harmonie qui va rassembler toutes les vibrations. Quand vous avez plusieurs éléments qui vibrent, il vous faut un chevalet, par exemple. Ou il vous faut une table sur le piano pour rassembler tout ça. Et puis il faut ensuite un système qui va radier le son dans l'air. Donc pour radier le son dans l'air, soit vous avez une planche, c'est le début des Sanza par exemple, soit vous faites une caisse de résonance avec une âme à l'intérieur donc qui va transmettre la vibration, soit ensuite vous allez corner les pavillons acoustiques. Donc ça, ça existe dans les trompettes, par exemple les trompes. Alors pour le fun, si vous voulez, on a plusieurs originalités. Cette excitation par des archets de verre, la mise en vibration de barres métalliques, et ensuite un système de couplage qui est une table d'harmonie comme celle d'un piano, c'est-à-dire une barre de métal très très lourde, rigide, et dessus des cornets acoustiques. Ensuite, l'idée de la facture de l'Euphone, si vous voulez, c'est d'arriver à générer des effets sonores, mais de façon acoustique. Avoir autant de possibilités, même plus, parce que c'est immédiat, c'est instantané, qu'avec du numérique, mais de façon mécanique. Chaque instrument a son histoire, il y a des antériorités. Moi, les instruments que je fabrique, ils remontent déjà à plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est en étudiant ce que l'on appelle l'organologie, la classification des instruments de musique. L'organologie, c'est une partie de la musicologie. C'est-à-dire qu'à côté des techniques, on a l'acoustique, c'est-à-dire les sciences, et puis on a bien sûr tout ce qui est répertoire, interprète. Donc c'est en étudiant tout ça que finalement on arrive à régénérer des instruments qui avaient été oubliés. Par exemple, le phone, ça date de 1789, vous voyez, ça paraît un module martien, mais c'est une évolution du glas harmonica. Donc des verres à pied, qui sont encore plus anciens. Et déjà au XIIe siècle, on avait en Chine, par exemple, des bols de verre qui étaient percutés. On a retrouvé ça au Moyen-Âge, chez nous. Donc vous voyez, il y a toutes ces filiations qui sont très intéressantes. Et ça aussi, c'est un message important pour nos enfants. Ils apprennent la batterie, ils sont en train de travailler leur guitare. Eh bien, prenons le temps d'aller avec eux chercher quelle est l'origine de ces instruments-là. Et puis, quelles sont les familles? Et comment tout ça, ça crée aussi cette fraternité internationale? Parce que la musique, c'est quand même avant tout l'art collectif par excellence. Et puis, c'est ce langage universel, on le sait très bien. Et ça, c'est une vérité. Et plus que ça, c'est aussi un langage qui nous permet de traverser les âges. Parce que ces musiques, quand elles nous parviennent à nouveau, quand on écoute à nouveau l'enterrement de la Reine Marie, de Purcell, ou bien des musiques de troubadour, ou bien de la musique baroque, de la musique renaissance, des grandes musiques classiques inspirées par les grands tableaux bucoliques, eh bien forcément on retrouve cette émotion. Donc il y a une partie de notre sensibilité, de notre âme qui se met à vibrer, peut-être un peu, dans l'émotion du temps où tout ceci a été construit. Et c'est important aujourd'hui, dans la création, que ce soit d'instruments de musique ou du répertoire qui va avec, parce qu'un instrument seul ne sert à rien, eh bien c'est d'avoir cette émotion contenue à l'intérieur, cette énergie-là, cette énergie de l'innovation, de la curiosité, de la connaissance, qui va déboucher forcément sur du partage, sur de l'invention collective, sur du social, sur une forme d'écologie sonore.